J'ai un message à partager avec vous aujourd'hui qui, franchement, m'enthousiasme énormément. Je l'ai prêché à notre église et j'ai vraiment eu le sentiment qu'il avait eu un impact profond et j'en ai été le premier à en être touché. Il m'a relevé le cœur, il m'a encouragé, il a fortifié ma foi et il fera la même chose pour vous. Le titre est « Jésus, notre jubilé ». Et quand vous découvrirez ce que cela signifie, préparez-vous, vous allez être béni. Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Nous allons simplement lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 4. Si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous l'ouvriez à ce passage, s'il vous plaît, Luc chapitre 4. Et nous allons examiner certaines des choses que Luc, le médecin bien-aimé, a rapportées. Il est intéressant de remarquer que Jésus n'est pas entré dans son ministère avant l'âge d'environ 30 ans. Il n'a pas guéri un seul malade, il n'a jamais accompli un seul miracle avant d'avoir environ 30 ans, nous disent les Écritures. Il était pourtant tout autant le Fils de Dieu à l'âge de 5 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 29 ans. Qu'est-ce qui a fait la différence? Eh bien, le seul facteur qui nous soit indiqué, c'est qu'à environ 30 ans, il est allé se faire baptiser par Jean dans le Jourdain. Et le Saint-Esprit est descendu sur Christ, là, dans le Jourdain. Et Dieu a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Puis, dans les versets qui suivent, au début du chapitre 4, il est dit que Jésus était rempli de l'Esprit. Il était conduit par l'Esprit et il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Ce n'est qu'après que le Saint-Esprit est venu sur lui et l'a consacré par onction, qu'il est entré dans son ministère, qu'il a commencé à prêcher et qu'il a commencé à guérir les malades. C'est le facteur qui a fait toute la différence. Et Jésus, dans Luc chapitre 4, dans la synagogue de sa propre ville, explique pourquoi l'Esprit est venu sur lui. Il utilise l'Écriture et dit aux gens pourquoi il a été consacré par onction de l'Esprit. Et nous reprenons dans Luc chapitre 4, au verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Je dois m'arrêter ici et faire un commentaire. Son habitude était d'aller à la synagogue chaque sabbat. Jésus allait à l'église. Si vous êtes vraiment en train d'être rendu conforme à l'image de Christ, vous irez à l'église. Faites tout ce que vous pouvez pour aller à l'église. Si vous voulez ressembler à Jésus, être conforme à son image, vous devez aller à l'église. C'était son habitude d'aller à la synagogue et de se lever pour lire. Il s'était levé dans cette même synagogue de Nazareth de très nombreuses fois pour lire les Écritures. Mais aujourd'hui, ce sera différent parce qu'il va lire un passage écrit à son sujet et au sujet de son ministère. Il lit en fait Ésaïe chapitre 61, mais regardons au verset 17. « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer ou pour annoncer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer ou pour annoncer une année de grâce du Seigneur. En citant Ésaïe, Jésus décrit en réalité son ministère et il dit « Dieu m'a consacré par onction de l'Esprit pour exercer un ministère auprès de cinq catégories de personnes. Les pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, les prisonniers, les aveugles et les opprimés. » Quelle description de notre génération! Quelle description de l'humanité! Et c'est intéressant parce que, du moins d'un point de vue biblique, trois de ces cinq désignations peuvent être directement appliquées à la maladie. Vous savez, il est consacré par onction pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Quand Job est tombé malade, la Bible dit que Satan frappa Job d'un ulcère malin, depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Et à la fin de l'histoire, lorsque Job est guéri et que la délivrance se produit pour lui, voici comment l'Écriture le décrit. L'Éternel rétablit la situation de Job, ou l'Éternel tira Job de sa captivité. Et bien sûr, nous savons que Jésus a guéri beaucoup d'aveugles. Puis il est dit que l'Esprit était sur lui pour renvoyer libres les opprimés. Pierre, dans Actes au chapitre 10, en faisant référence à ce même verset et au ministère de Christ, l'a formulé ainsi. Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était sous la domination du diable. Pierre a donc parlé de Jésus guérissant les gens comme du fait de les libérer de l'oppression satanique. Et je trouve intéressant que Jésus ait dit trois fois « J'ai été consacré par onction de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer ou prêcher. Pour prêcher, pour prêcher, pour prêcher. » Et que prêchait Jésus ? Il disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par onction pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. Ne sous-estimez jamais, jamais la puissance qu'il y a à écouter une bonne prédication. Mon ami, une prédication ointe a le pouvoir de briser le joug. » Vous pouvez être transformé en un instant. L'apôtre Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Et le mot traduit ici par « salut » signifie littéralement « secours, sécurité, délivrance, guérison, salut ». L'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui le croient. Donc Jésus a dit tout d'abord, j'ai été consacré par onction pour prêcher, j'ai été oint pour prêcher, j'ai été oint pour prêcher. Et si vous parcourez les évangiles, c'était la manière d'agir de Jésus. Il enseignait, il prêchait, puis il guérissait. Il apportait presque toujours la parole de Dieu d'abord. Et là où les gens étaient disposés à écouter, les résultats étaient au rendez-vous. Maintenant, je veux regarder de près la bonne nouvelle que Jésus prêchait. De nouveau, au verset 19, il reprend ce point et dit « L'Esprit est sur moi. Il m'a consacré par onction pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » C'est l'une des expressions bibliques utilisées pour désigner l'année du jubilé. L'année du jubilé, c'est très très important. Vous devriez l'étudier en détail plus tard. On la trouve dans Lévitique au chapitre 25 où elle est décrite en détail. Cela arrivait une fois tous les 50 ans, l'année de grâce du Seigneur, l'année du jubilé. Une fois tous les 50 ans, le jour des expiations, lorsque l'agneau du sacrifice était immolé. On faisait retentir une trompette, puis chaque personne devait retourner dans sa propriété. Les choses qu'ils avaient perdues au cours des 50 dernières années leur étaient rendues. C'était une grande bonté instituée par Dieu. En fait, même selon la loi mosaïque, il n'était pas légal pour un Israélite de vendre définitivement les terres de ses ancêtres. Ils n'avaient pas le droit de le faire. S'ils traversaient des temps difficiles, ils devaient peut-être vendre leur maison et les propriétés familiales. Mais l'année du jubilé, lorsque la trompette retentissait et que l'agneau du sacrifice était immolé, toutes leurs propriétés leur étaient rendues. Ainsi, si quelqu'un voulait acheter une propriété et qu'il restait 15 ans avant le jubilé, le prix était fixé pour une possession de seulement 15 ans. Si j'avais traversé des temps difficiles et que j'avais dû me vendre comme serviteur sous contrat pour payer mes dettes, lorsque l'année du jubilé arrivait, j'étais libéré. Toutes mes possessions m'étaient rendues. Encore une fois, c'était une grande bonté instituée par Dieu pour ceux qui avaient traversé des temps difficiles. Mais c'était plus que cela. C'était aussi un type et une ombre. C'était un symbole qui annonçait Christ et son ministère, ce qu'il avait fait pour l'humanité. En fait, regardez ce qui se passe ensuite. Au verset 20, « Ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Elle est accomplie aujourd'hui. C'était un panneau indicateur. C'était un symbole qui pointait vers Christ et vers sa venue. Vous voyez, quand Adam a désobéi dans le jardin, l'humanité a perdu énormément de choses. Nous avons perdu notre relation avec Dieu, nous avons perdu notre paix. Nous sommes devenus aveugles, opprimés, prisonniers. Mais Jésus-Christ est venu, et maintenant nous pouvons retourner à nos possessions. Nous pouvons garder, nous pouvons retrouver notre relation avec Dieu. Nous pouvons avoir la paix. L'oppression du corps, de l'âme et de l'esprit qui est venue sur la race humaine, nous trouvons en Jésus la délivrance de ces choses. Cela a été accompli. Et j'aime ce que Jésus a dit aujourd'hui, pas un jour dans l'avenir, pas quand vous savez que cela viendra. Il a dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Pas un jour, mais maintenant. Vous savez, une famille est partie en vacances sur la côte du Golfe. Ils vivaient peut-être à 160 km à l'intérieur des terres. Et le petit garçon, Eric, n'avait jamais vu l'océan auparavant. Il n'en revenait pas. C'était tellement vaste et l'eau était si chaude, il ne s'en lassait pas. Eh bien, à la fin de la semaine, vous savez, le petit chalet qu'ils avaient loué, leur séjour était terminé. Ils sont rentrés chez eux. Quelques jours après leur retour, Eric entre un matin. Son père lit le journal du matin, boit son café, se prépare à partir au travail et il dit « Papa, qu'est-ce qu'il y a, fiston? Est-ce qu'on peut retourner à la plage ?» Son père est vraiment distrait. « Oui, Eric, bien sûr, il regarde son journal. » Eric disparaît. Il revient quelques minutes plus tard. Il porte son maillot de bain, une serviette sous le bras et il a son petit seau. Son père rit un peu. Il dit « Eric, qu'est-ce que tu fais ?»« Eh bien, tu as dit qu'on pouvait retourner à la plage. »« Oui, mais on ne peut pas, Eric. Pas aujourd'hui. Un jour. » Eh bien, mon ami, ce n'est pas un jour que cela va être accompli. Jésus a dit « Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est accompli. » Vous souvenez-vous du moment où Jésus est venu chez Marie, Marthe et Lazare? Lazare est mort, il est mort depuis 4 jours. Et Jésus dit à Marthe, « Marthe, ton frère Lazare ressuscitera. » Et avant cela, elle avait dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Puis il dit, « Lazare ressuscitera. » Et elle répond, « Seigneur, je sais qu'un jour, à la résurrection, il ressuscitera. » Jésus a dit, « Non, Marthe. Je suis la résurrection. Maintenant même, je suis la résurrection. » Voyez-vous, Marthe, comme beaucoup de membres du peuple de Dieu, avait la foi pour le passé. « Seigneur, si tu avais été ici, je sais que mon frère ne serait pas mort. » Et elle avait la foi pour l'avenir. « Oh, un jour à la résurrection !» Mais elle n'avait pas la foi pour maintenant. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, nous savons qu'il y a eu de grands réveils de guérison dans le passé. » Et vraiment, nous avons lu comment Dieu a agi dans tout cela. Si seulement nous avions pu vivre à cette époque-là. Et nous savons que Dieu le fera un jour. Nous savons que cela arrive. Non, Jésus cherche une foi pour maintenant. Il cherche une foi pour aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est important, mon ami. Et nous poursuivons au verset 22. Il est dit, « Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. » Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici dans ta patrie, littéralement dans ta ville natale, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Jésus leur adresse ici une parole prophétique. Il dit, « Le temps viendra, où vous direz, « Nous avons entendu parler de toutes les guérisons et de tous les miracles que tu as accomplis ailleurs, fais-les ici. » Il est intéressant de noter que, parfois, ceux qui ont le plus grand accès à la guérison et à la bénédiction en font le moins l'expérience. Pause pour marquer les esprits. Tout dépend de l'attitude et de la réponse à la parole de Dieu, comme nous allons le voir. Jésus poursuit au verset 24. Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. » Ils ne l'ont pas accepté. Vous pouvez lire le récit des mêmes événements tels que Marc le rapporte dans Marc au chapitre 6. Ils ont dit, « N'est-il pas le charpentier? Ses frères ne sont-ils pas ici? Et il nomme 4 de ses frères et ses sœurs aussi. Est-ce qu'on ne le connaît pas? Ils cherchaient des raisons de ne pas croire. » Ils se sont scandalisés à son sujet et l'ont rejeté. En fait, lorsque Jésus est venu dans sa ville natale, là encore, c'est le récit que Marc fait de ces mêmes choses. Il est dit que Jésus s'étonna de leur incrédulité et qu'il ne put faire là aucun miracle. Ils ont trouvé des raisons de ne pas accepter ce qu'il disait. Et donc Jésus poursuit, et ce qu'il dit ensuite est bouleversant. Verset 25, il dit, « Je vous le déclare en toute vérité. » Il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Jésus a souligné qu'à ces deux époques, des étrangers ont reçu la bénédiction, tandis que le peuple de Dieu en a été privé. L'un d'eux a reçu une provision matérielle, l'autre a été guéri. Deux des choses au sujet desquelles Jésus avait dit que l'Esprit l'avait consacré par onction pour qu'il les apporte. Pourquoi le besoin de la veuve a-t-il été satisfait, alors que celui des autres veuves en Israël ne l'a pas été? Pourquoi Naaman le Syrien a-t-il été guéri? Ces deux personnes étaient des étrangers. Les gens qui avaient droit à ces bénédictions par alliance, ceux qui avaient les promesses de l'alliance, en ont été privés. Et les étrangers les ont reçus. Eh bien, vous pouvez lire ces récits dans 1 et 2 Rois, et la raison est assez évidente. Cela tenait à leur réponse et à leur accueil de la parole de Dieu. Je vais dire quelque chose qui vaut la peine d'être retenu. Dieu n'est pas touché par notre besoin seulement. Jésus a dit qu'il y avait une grande famine pendant 3 ans et demi, et il a dit qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël. Dieu ne se souciait-il pas de ces veuves? Bien sûr que si. Il est compatissant, mais il n'est pas touché par notre besoin seulement. Réfléchissez-y, 3 ans et demi. Beaucoup de ces veuves n'avaient personne pour prendre soin d'elles. Beaucoup d'entre elles avaient des enfants, comme celle qu'il a mentionnée. Beaucoup d'entre elles ont dû enterrer leurs enfants. Beaucoup sont même mortes. Ne pensez-vous pas qu'elles ont prié et supplié Dieu de les aider? Mais Jésus a dit qu'aucune d'elles n'a reçu la bénédiction promise. Il a dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël, le peuple de Dieu qui avait un droit d'alliance à la guérison, mais aucun d'eux n'en a fait l'expérience, sauf cet étranger, Naaman. Lisez l'histoire. Il est célèbre, c'est un héros de guerre, il a des relations, il est ami avec le roi, il est extrêmement riche, mais il a la lèpre. La maladie ne fait pas de favoritisme. Elle frappe les riches et les pauvres, les vieux et les jeunes. Elle ne tient pas compte des frontières ni de l'origine ethnique. Elle ne fait pas de favoritisme. Et cette petite servante israélite, une esclave qui était au service de sa femme, dit « Oh, vous savez, il y a un prophète en Israël. Il a un ministère de guérison. Si vous pouviez aller le voir, il vous remettrait sur pied, monsieur Naaman. » Maintenant, il aurait pu trouver toutes les raisons du monde de rejeter cela. Il aurait pu dire, écoute, qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'une petite esclave. Je ne vais pas t'écouter. Tu te rends compte que je suis riche? J'ai dépensé de l'argent auprès des meilleurs médecins du pays et tu dis qu'un inconnu, un prophète en Israël, notre ennemi méprisé, va m'aider? C'est ridicule. Tais-toi seulement. Ou il aurait pu dire, eh bien, c'est peut-être vrai, mais j'ai personnellement mené de nombreuses incursions dans le pays d'Israël. J'ai tué bien des soldats israélites de ma propre épée et de ma propre lance. Jamais ils ne m'aideraient. Ou encore, eh bien, c'est peut-être vrai, mais trouver quelqu'un comme ça, ce serait chercher une aiguille dans une botte de foin. Ce serait juste une perte de temps. Ou encore, oui, c'est peut-être pour les Israélites. J'ai entendu certaines de ces histoires, mais ce n'est pas pour moi. Vous savez, je suis un étranger, il n'a rien dit de tout cela. Il n'a trouvé aucune raison de ne pas croire. Il s'est emparé de la parole avec empressement et faim et il a agi en conséquence. Il est allé voir le roi, il lui a dit « Roi, il y a un homme avec un ministère de guérison, je veux y aller ». Il a emmené des gens avec lui, il est parti chercher, il s'est mis en route et à la fin il a obéi et a fait quelque chose de ridicule afin d'expérimenter le miraculeux. Il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et sa chair est redevenue comme celle d'un petit enfant. Et Jésus a dit « Regardez, ces deux personnes qui étaient en dehors de l'Alliance ont reçu la bénédiction, tandis que beaucoup de membres du peuple de Dieu en ont été privés ». Tout dépendait de leur attitude et de leur accueil de la parole de Dieu. Et remarquez qu'il parle à des gens de sa ville natale qui ont trouvé des raisons de ne pas l'accepter, qui ont trouvé des raisons de le rejeter. La vérité, c'est que Jésus est notre jubilé, et je fais retentir la trompette du jubilé de l'Évangile pour vous dire que vous pouvez retourner à vos possessions. Mais écoutez, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que cela devient automatique pour nous. Encore une fois, Dieu n'est pas touché par le besoin seulement. Nous ne pouvons pas rester passifs et nous attendre à ce que cela nous tombe du ciel. Nous devons accepter ce que nous entendons prêcher et agir en conséquence. Aujourd'hui, c'est accompli. Mais quelqu'un en dehors de l'Alliance, un étranger, peut le recevoir avant nous si nous ne l'acceptons pas et n'agissons pas en conséquence. Je sais que certains disent « Eh bien, je n'aime pas ça, pasteur. » Eh bien, vous vous inscrivez parfaitement dans le récit ici. Verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Je me suis déjà tenu sur le sommet de cette colline et j'y ai fait quelques tournages, n'est-ce pas? Là où les gens de sa propre ville, ceux de son propre peuple, voulaient se débarrasser de lui. Ils étaient tellement en colère parce qu'il leur disait, en substance, « Oui, vous êtes le peuple de l'Alliance de Dieu. Oui, vous êtes les enfants d'Abraham. Mais ce sont des étrangers qui l'ont reçu parce qu'ils ont respecté et accepté la parole de Dieu, contrairement à vous qui cherchez des raisons de ne pas croire. » Et il est dit que Jésus passa au milieu d'eux et poursuivit son chemin. Son chemin consistait à aller plus loin, à chercher des cœurs affamés. Et je suis convaincu que Dieu est prêt à passer au-dessus d'un million de personnes pour trouver une personne au cœur croyant et affamé. Je crois que c'est ce que Dieu cherche. Et nous poursuivons au verset 31. C'est tellement important. Il se rendit à Capernaum, une autre ville de la Galilée. Il y enseignait les jours de sabbat. Remarquez les jours de sabbat au pluriel. Jésus, que fais-tu? Je vais à l'église et j'enseigne. Et je vais à l'église et j'enseigne. Et je vais à l'église et j'enseigne. Et je vais à l'église et je prêche l'évangile. Sabbat après sabbat après sabbat. Jésus comprenait l'importance de la prédication ointe. Il est dit au verset 32, on était frappé par son enseignement car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte. Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa réputation gagna toute la région. C'est intéressant, nous avons un démon qui assiste à l'église. Et quand Jésus s'occupe de l'esprit mauvais dans cet homme, il n'est pas du tout aimable. Il est dit qu'il le reprend sévèrement. Le mot grec traduit par « reprendre sévèrement » est extrêmement dur. Il n'y a rien de gentil, il n'y a rien de doux là-dedans. Jésus l'a repris sévèrement et littéralement, il a dit « sois muselé, dehors !» Il n'a pas été aimable. Il n'a pas parlé doucement. C'était une réprimande sévère. Et l'esprit mauvais est parti. Regardez ce qui se passe ensuite. Oh là là! Verset 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre, et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Et il est dit, il se pencha sur elle. Je veux m'arrêter là. Voici le docteur Luc qui utilise ces termes médicaux. Dans le monde ancien, on divisait les fièvres en deux catégories, les grandes fièvres et les petites fièvres. Et cette forte fièvre signifie littéralement une grande fièvre. Les grandes fièvres n'étaient pas quelque chose qu'on avait quand on attrapait un rhume ou la grippe. C'était littéralement quelque chose de virulent, de dangereux, qui menaçait la vie. Il est fort probable que sa belle-mère était sur le point de rendre l'âme. Elle avait une grande fièvre. Et il est dit que Jésus se pencha sur elle. Luc utilise un autre terme médical. Dans le monde ancien, c'était une expression utilisée pour un médecin qui s'occupe de son patient. Littéralement, un médecin au chevet d'un patient en train de le soigner. Mais Jésus va faire quelque chose que la plupart des médecins terrestres ne feraient pas. Regardez ce qui est dit. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Jésus a fait exactement la même chose à la fièvre qu'il avait faite à l'esprit mauvais. C'est le même mot grec. Il ne l'a pas traitée avec gentillesse, il n'a pas parlé doucement. Il a traité la maladie de la même manière qu'il a traité l'esprit mauvais. Non pas comme une amie, mais comme une ennemie. Non pas comme une bénédiction envoyée par Dieu, mais comme une ennemie. Il a menacé la fièvre. Et elle l'a quittée. Maintenant, certaines personnes disent « Oui, mais ce n'est pas pour tout le monde. » Regardez le verset suivant, le verset 40. « Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des malades de toutes sortes les conduisent à Jésus. Il pose la main sur la tête de chacun. » Et les guérit. Tous ceux, de toutes sortes, et chacun. Tous ceux, de toutes sortes, et chacun. C'est comme le mot « quiconque ». Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Si vous êtes un quiconque ou parmi tous, ou entrez dans la catégorie de toutes sortes ou de chacun, alors c'est pour vous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il répondra à la foi partout ou il la trouvera dans un cœur humain. En fait, un ancien, je ne me souviens plus de qui il s'agissait, a dit que Dieu passera au-dessus d'un million de personnes pour atteindre une personne qui a la foi. Quelqu'un dira « Comment vient la foi ? Je veux avoir la foi, je veux pouvoir croire en Dieu, les choses que vous prêchez dans votre message, je veux les accepter, mais je lutte tellement. » Voici comment elle vient, vous êtes prêts, voici le secret. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Passez du temps dans la parole et la foi viendra à vous sans même que vous vous en rendiez compte. Alors mon ami, aimez la parole de Dieu. Dieu répond à la foi. Mon temps est écoulé, que Dieu vous bénisse.
Cette émission vous a plu ?
Je pense que vous trouverez des réponses à vos situations personnelles, car Dieu se préoccupe véritablement de vous.
Alors aidez-nous à en produire d'autres. Vous pouvez faire un don directement en ligne sur bayless-conley.fr/don. N'hésitez pas à nous envoyer un email à contact@bayless-conley.fr pour plus d'informations. Merci beaucoup pour votre soutien.
Souhaitez-vous relire la diffusion tranquillement à votre rythme? Téléchargez dès maintenant le texte du message sur bayless-conley.fr/texte. Si vous avez d'autres questions ou souhaitez que nous prions pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également nous contacter via notre site internet.